Donc je vais aussi remonter un petit peu en
amont des causes de la tragédie ukrainienne actuelle. La Russie, en effet, au XXe siècle, elle a perdu deux fois la paix, avant la dissolution du RSS, elle avait perdu deux fois ses provinces occidentales et le Caucase, hein, en 1918, avec Brest-Litovsk, et au moment de l'invasion allemande. À chaque fois, elle les avait reprises, et dans l'esprit des dirigeants russes, y compris Yeltsin, il allait de soi que la dissolution de l'URSS était provisoire. On se souvient d'ailleurs que le président russe, Yeltsin, justifiera plus tard la décision du 8 décembre 1991, la décision de la dissolution de l'URSS, prise avec son collègue biélorusse et son collègue ukrainien, par le souci de retenir l'Ukraine en créant la CEI. C'était juste après que l'Ukraine ait voté par référendum son indépendance. On voit rarement le lien entre les deux. C'est très important. Et au fond, tout dans l'évolution de la Russie post-soviétique découle de cette orientation initiale. En 1994, lors d'une table ronde organisée à Saint-Pétersbourg, l'un des Occidentaux présents a eu la surprise d'entendre Poutine, qui était alors un obscur collaborateur de la mairie du maire Sobchak, déplorer que la Russie ait abandonné, je cite, de vastes territoires aux États post-soviétiques, y compris des régions, je cite, qui avaient historiquement toujours appartenu à la Russie. La politique de réintégration de l'espace ex-soviétique s'est forgée dans le milieu des siloviki, c'est-à-dire l'armée et la police, hein, c'est les services, le GRU surtout, le FSB, le SVR et essentiellement ces groupes-là, qui déjà sous Yeltsin avaient créé des enclaves séparatistes directement contrôlées par eux en Transnistrie, en Ossétie du Sud, en Abkhazie. Ces bases devaient servir de point d'appui permettant le jour venu le reflux russe dans les terres perdues. Hein, c'est comme ça qu'elles étaient conçues. Donc, le révisionnisme qui va devenir l'axe principal de la politique du Kremlin s'esquissait dès la période yeltsinienne. En mai 1999, donc encore sous Yeltsin, la Douma avait adopté une loi formulant la politique officielle à l'égard des Russes de l'étranger, les Russes de l'étranger proches. Au terme de cette loi, la Russie pouvait fournir à ses compatriotes de l'étranger les moyens d'établir un gouvernement local, donc exactement ce qui s'est fait, ce qu'on a vu en Ukraine. Et en décembre 1999, la Douma a adopté en première lecture un projet de loi intitulé « Modalités pour l'adhésion à la Fédération russe » et la création au sein de la fédération d'une nouvelle formation territoriale. Donc déjà l'idée que c'est un peu comme la constitution soviétique prévoyait son extension à tous les pays nouveaux venus, et là aussi on prévoit déjà à la fois le redécoupage des sujets de la fédération et aussi l'inclusion éventuelle dans la fédération d'États étrangers ou de territoires appartenant à des États étrangers. C'est l'article 4 de cette loi. Et la doctrine de sécurité russe qui est adoptée en 2000, l'année suivante, parle déjà de protéger les droits des Russes à l'étranger par des moyens politiques, économiques et autres, donc militaires. Hein. Donc la politique poutinienne ne fait que prolonger et amplifier des tendances souterraines à l'œuvre dès le début de la période Yeltsin. Ce qui est nouveau avec Poutine, c'est l'extraordinaire résurgence de l'esprit et des méthodes staliniennes. On trouve chez lui la même manière que chez Staline d'avancer un pion, de voir si cette initiative prudente suscite une réaction à l'étranger, et si ce n'est pas le cas, de faire monter les enchères, d'avancer plus loin. Au moment du coup de force russe contre la Géorgie, en août 2008, Poutine avait déjà le projet de démembrer l'Ukraine. Il en parlait, il disait que l'Ukraine était un État inconsistant. L'amputation de la Géorgie en septembre 2008, ne suscitant aucune réaction en Occident, Poutine estime qu'il peut continuer. Donc le test était positif. En janvier 2010, la Russie de Poutine remporte un immense succès en Ukraine, puisque le favori, son favori, Viktor Yanukovych, qui est un ancien repris de justice, Staline aussi préférait des gens à la biographie douteuse, ça permet de les faire chanter. Donc il est élu à la présidence de l'Ukraine, et de 2010 à la chute de Yanukovych en février 14, la Russie va procéder de manière sournoise en s'efforçant de phagocyter l'État ukrainien, en détruisant son armée, ses services secrets, sa police, son économie, à l'exception des industries travaillant pour le complexe militaro-industriel russe. Ça, c'est très important, évidemment. Donc, au sommet de l'État ukrainien, toutes les administrations qui comptent sont infiltrées par des agents russes, voire téléguidées par eux. Ce travail de sape s'intègre dans le grand dessein poutinien qu'il a relancé avec force après sa réélection. Donc la création d'une union eurasienne qui ferait renaître l'Empire russe sous une forme nouvelle. À l'été 2012, la Douma décide de bâtir cette union économique eurasienne, dont la création était prévue pour janvier 2015, en s'appuyant sur les compatriotes de l'étranger proche, sur ce qu'on appelle désormais le monde russe. C'est à ce moment-là que l'expression « monde russe » dans ce sens-là apparaît. Donc on décide de renforcer la protection des Russes de l'étranger. La langue russe est déclarée le ciment de la future Union eurasienne, et un mouvement pompeusement baptisé « Notre patrie et l'Union eurasienne » voit le jour et est chargé d'organiser les Russes de Moldavie, de Transnistrie, du Kazakhstan, d'Ukraine et de Biélorussie en vue de réaliser, je cite, les objectifs définis par le président Poutine. Alors ce mouvement a l'appui énergique du patriarche Cyril, et parallèlement à la mise en place de ce dispositif de subversion de l'étranger proche, la Russie va accélérer la création du fameux Comintern de droite, qui était en formation, en gestation déjà depuis au moins depuis 2006-2007, mais qui va être pris en main avec une énergie nouvelle. Donc Poutine rassemble les partis d'extrême droite européenne cette mouvance est financée et téléguidée de Moscou, et c'est la crise ukrainienne a permis de révéler au grand jour l'instrumentalisation de ce Comintern des nationalistes. La priorité accrue qui est donnée à la subversion à partir de 2012, à mon avis, s'explique par le fait qu'à Moscou, on ne croit plus trop à l'attraction économique de l'Union eurasienne. Le déclin économique commence et est perceptible dès 2011 et il s'accélère en 2012 et en 2013. Donc c'est ce qui va pousser la Russie à mettre en avant davantage les cartes, jouer les cartes de la subversion. Également héritée du stalinisme chez Poutine, c'est la haine forcenée de l'Occident qui va inciter Poutine à concevoir la diplomatie comme un jeu à somme nulle. Et de même que Staline avait forcé le président tchèque Beneš et Masaryk a renoncé à la participation au plan Marshall en 1947. Poutine va acculer Yanukovych à renoncer à l'accord d'association avec l'Union européenne, pourtant bien inoffensif. Dieu sait, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Mais le 21 novembre, comme vous vous souvenez l'année dernière, le gouvernement ukrainien, après une rencontre de Yanukovych avec Poutine à Sotchi, suspend soudainement les négociations devant déboucher sur l'accord d'association avec l'Union européenne et relance toutes les relations économiques avec la Russie en recevant la promesse d'une aide de 15 milliards de dollars. Donc c'est un succès pour la Russie éclatant, parce que depuis longtemps, elle se voyait dans une situation de bras de fer avec l'Union européenne, ce dont l'Union européenne n'était absolument pas consciente, hein, évidemment. Et tout semblait très bien marcher. Pour Poutine, désormais, l'objectif, c'est de la domestication des oligarques ukrainiens à l'image des oligarques russes. En effet, même sous la coupe du clan Yanukovych, l'Ukraine rappelait plus la Russie de Yeltsin que la Russie de Poutine. Et donc, Poutine veut, comme il veut intégrer l'Ukraine dans la verticale du pouvoir russe, il se sent obligé de mettre au pas les oligarques ukrainiens. Et ceux-ci ne sont nullement enthousiastes devant cette perspective, hein, et ils vont appuyer le choix européen de la société ukrainienne. Et c'est ce qui va expliquer la révolution ukrainienne qui va avoir lieu, hein, c'est cette alliance entre les oligarques et la société, la plupart des oligarques et la société ukrainienne. Et tout cela va entraîner la chute de Yanukovych et son remplacement donc par une équipe pro-européenne qui porte un coup au cœur des projets poutiniens, des principaux projets poutiniens, hein, puisque c'était fondamental l'intégration de l'Ukraine dans l'Union eurasienne, évidemment. Alors, pour Poutine, donc Poutine est persuadé qu'il était persuadé qu'il suffisait de contrôler les décideurs en les achetant. Hein, c'était l'expérience qu'il avait aussi en Europe occidentale. Il pensait qu'il suffisait d'allonger 15 milliards de dollars pour acheter Yanukovych et l'Ukraine. Eh bien, ça n'a pas marché. La schröderisation avait des limites. Et l'émergence d'une opinion publique non manipulée par les réseaux du Kremlin est vécu comme un camouflet intolérable pour Poutine. Donc, tout le travail d'infiltration et de destruction de l'État ukrainien de l'intérieur qui était mené les années précédentes, tout ça, ça tourne à la débâcle. Alors, Poutine n'est pas habitué à perdre, hein, il va réagir. Il n'a plus qu'une idée, c'est de se venger de l'Ukraine et des Occidentaux qui, dans son esprit, tirent les ficelles à Kiev. Hein, il est persuadé, il ne peut pas. Poutine est incapable de comprendre la liberté des autres. Hein, donc, il pense que si les gens agissent, c'est qu'ils sont manipulés par Washington ou par Bruxelles. Donc, il va déchaîner dans les médias une campagne de haine russe et étranger, mais surtout russe, une campagne de haine contre l'Ukraine qui rappelle à l'historien les déferlements hystériques de la presse communiste contre le renégat et fasciste Tito. Je crois qu'il y aurait toute une étude à faire en comparant les deux. Hein. On aurait des surprises. Aussi, bien entendu, accusé de fascisme, etc. Tout ça, on l'a vu à l'époque du schisme yougoslave. Hein. Et puisque la subversion n'a pas réussi à détruire l'État ukrainien, eh ben celui-ci va devoir être dépecé, comme la Géorgie, en 2008. En Occident, on s'est beaucoup intéressé à la guerre hybride, à cette notion de guerre hybride. On y a vu quelque chose de nouveau. Hein, cette guerre qui ne dit pas son nom, qui est menée par la Russie contre l'Ukraine. Mais en fait, l'historien va encore retrouver les méthodes du camarade Staline derrière cette guerre hybride. Staline en a défini le modus operandi en octobre 1929. La Russie a lancé une de ces guerres hybrides contre la Mandchourie. Et je vais vous citer une lettre de Staline à Molotov, et vous verrez, l'analogie est absolument éclatante. Voilà ce qu'écrit Staline à Molotov, donc le 7 octobre 1929. « La Chine va nous donner du fil à retordre. Il me semble à ce propos qu'il est temps d'organiser un mouvement révolutionnaire insurrectionnel en Mandchourie. Nous devons mettre sur pied deux brigades de deux régiments formés avant tout chinois, les équiper des armements indispensables, artillerie, mitraillettes, placer à leur tête des Chinois et les expédier en Mandchourie.